carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, c'est le 20e épisode, l'après-guerre dans le Rio de la Plata. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, dans ce nouveau chapitre de Carrefour des Amériques, où nous nous retrouvons dans le Rio de la Plata dans l'immédiate après-guerre, en 1919. L'Espagne est encore très présente à Buenos Aires, mais cette fois, la zarzuela est supplantée peu à peu par les nouvelles revistas, les revues avec plumes et paillettes arrivées de Madrid. Cette année-là, le grand succès de la scène madrilène fait une entrée fracassante dans les théâtres du Rio de la Plata. Las Corsarias, les femmes corsaires de Francisco Alonso, une histoire abracadabrante qui se passe dans une Espagne et un Maroc de fantaisie avec ce qu'il faut de numéros dansés, souvent très coquins. Après les 1000 représentations en Espagne, Las Corsarias sont à l'affiche durant 2000 représentations en Argentine. Dans le cœur, une gamine de 14 ans, on n'était pas très regardant ces années-là, se fait vite remarquer, au point de remplacer un soir la soprano malade dans l'un des rôles. Sa voix canaille et une gouaille qui rappelle Arletty fait sensation. Elle s'appelle Celia Gámez. Elle était née à Buenos Aires en 1905. Elle a 20 ans quand la famille s'établit en Espagne, où elle devient l'une des plus grandes vedettes de music-hall de son temps. Elle chantera toujours l'Argentine dans ses spectacles, dont l'un des premiers est justement Las Corsarias de ses débuts. Et elle gardera toujours cette voix de petite fille pas du tout modèle. Comme dans ce tango enregistré à Madrid, où elle explique d'abord au public espagnol qu'en Argentine, en plus du tango, comme celui qu'elle va chanter, toutes les régions ont de superbes musiques populaires. Puis elle devient canaille en chantant le si célèbre « Mamita mia ».« Ma petite maman, je n'ai pas pu résister à l'amour qui brûle en moi et qui m'a entraîné sur la pente fatale. L'infâme séducteur m'a abandonné. Reprends-moi, ma petite maman. »
Dos cosas tiene mi tierra que llegan al sentimiento. El tango de los suburbios y el cantar de tierra adentro. Este asunto, esta acuarela, de un tiempo que ya pasó. Mientras gime un tango viejo en el barrio del Farol. Mamita, yo sé que es mi culpa, no tiene disculpa, no tiene perdón. Mamita, pero usted que es buena, comprenda la pena de mi corazón. No he querido escuchar sus consejos y más fuerte que mi voluntad fue ese amor que golpeándome el pecho me arrastró por la celda del mar. Y hoy que sola en el mundo me veo y el infame de mí se burló con el alma tranquila. Le ruego que perdone mi falta, por Dios. Mamita, yo sé que es mi culpa, no tiene disculpa, no tiene perdón. Mamita, pero usted que es buena, comprenda la pena de mi corazón. Mamita, yo sé que mis males, horribles martirios, la hicieron llorar. Mamita, por eso es que quiero, mamita, en sus brazos mi falta olvidar.
L'incroyable Celia Gámez. À côté des zarzuelas, des sainetes populaires où on chantait des tangos, à côté des revues et comédies musicales et même des opérettes françaises et anglaises qui résistaient encore, il y avait bien sûr les prestigieuses saisons d'opéra du théâtre Colonne. En 1919, le grand chef italien Tullio Serafin revient à Buenos Aires après 5 ans d'absence et dirige les débuts au théâtre Colonne de l'une des plus grandes divas de l'époque, la soprano Claudia Muzio, tellement fêtée par le public qu'elle reviendra pratiquement chaque année jusqu'en 1928, puis une dernière fois en 1933. En 1919, elle crée « Madame sans gêne » de Giordano, d'après Victorien Sardou, où son talent comique est particulièrement applaudi. Puis elle chante ses grands rôles italiens, dont une Traviata bouleversante. Des ouvrages qu'elle reprend pour la plupart dans la saison lyrique de Montevideo.
Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in cranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà quel suo perdono, io pur verrò, curatevi, meritate un avvenir migliore, Giorgio Germò. Attendo, non mi giungon mai. Come son mutato, noi dottore, a sperar pur mezz'ora. Thank you.
Bouleversante Claudia Muzio, l'orchestre était dirigé par Lorenzo Molaioli. En 1919, la danse est aussi à l'honneur en Argentine et en Uruguay. La célèbre Anna Pavlova est de retour avec sa compagnie au mois de mai. Puis à la fin de l'année, c'est le retour à son pays natal de la danseuse flamenca espagnole Antonia Mercé, dite l'Argentine, la Argentina. Elle avait remis à la mode la danse andalouse à Paris, notamment sur la scène de l'opéra, accompagnée de la musique des plus grands compositeurs. Et elle allait connaître un véritable triomphe au Trianon lyrique en dansant L'amour sorcier de Manuel de Falla en 1925. Elle était née à Buenos Aires en 1890 alors que ses parents étaient en tournée en Argentine, ce qui lui avait valu ce surnom affectueux de l'Argentina. Elle avait 6 ans quand la famille était rentrée en Espagne. Elle était déjà venue en 1915 alors qu'elle débutait une tournée de 3 ans dans les Amériques. La voici de retour en 1919 au Rio de la Plata. La danza numéro 5 de Granados que dansait ici Antonia Mercé, la Argentina. En 1919, notre cher Toulousain de Buenos Aires, Carlos Gardel, va créer ce qu'il a appelé son premier vrai tango, car détaché de toute racine folklorique. À l'époque, il continuait à travailler sa voix, cette fois avec Eduardo Bonessi, pianiste, parolier et professeur de chant. Et il entretenait aussi son physique, car il pensait au cinéma, par une gymnastique quotidienne. Celedonio Flores avait envoyé à un journal de Buenos Aires un court poème qui avait attiré l'attention de Gardel. Il demande alors à son guitariste, José Ricardo, de l'aider à créer une mélodie. Gardel l'enregistre sous le nom de Margot. Il a fait des progrès en lunfardo, cet argot des faubourgs, et il parvient même à jouer les machos de la pire espèce. « On te voit venir de loin avec tes airs de parvenu. » Toi qui es né dans la misère, qui as-tu donc séduit à nouveau pour pouvoir danser le tango au cabaret Armenonville dans des robes de percale et en buvant du champagne? Allez, va-t'en, je ne veux plus te voir. Tu n'es plus ma Margarita, ma Marguerite. Aujourd'hui, on t'appelle Margot. Quand je pense que ta mère vit encore pauvrement dans un conventillo, cet immeuble pour les pauvres sans électricité.
Lejos se te manda pelando una bacanada y han nacido en la miseria de un cazoso de arrabal. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada o tu cuerpo acostumbrado a las pinchas de percal. Ese cuerpo que hoy se marca los compases tentadores del canto en vez de algún tango en los brazos de algún gil. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores entre el humo de los puros y el champán de Armenonville. Son mentira no fue un guapo aragán y prepotente ni chopica veterano el que al vicio se largó. Rodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente desde el día que un magnate de tu vida te engrupió. Lo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy usas a jugar de cera con rosita rococó. me revienta tu presencia, pagaría por no verte, y hasta el nombre te has cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Siempre vas con los otoños a tirarte de bacana a un lujoso reservado del vestido en su día. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la onda con pobreza franciscana en el triste convertido o alumbrado vaquero.
Juste après la saison d'opéra au Théâtre Colonne, le 27 août, le Théâtre Colisseo prend le relais et lors d'une représentation en italien de l'opéra Parsifal de Richard Wagner, interprété par des chanteurs italiens et argentins, est effectuée la première retransmission radiophonique en direct. L'antenne était située entre la terrasse du théâtre et le toit d'un immeuble voisin. L'événement fait la une des journaux et déclenche une étonnante recherche au trésor. Pour les Argentins, adeptes de sciences plus ou moins occultes, ce n'était qu'un retour aux sources. En effet, ils se référaient à l'ode à Parsifal du barde allemand Wolfram von Eschenbach au XIIe siècle. Dans ce poème, il prédisait que Parsifal traverserait l'Atlantique avec le Saint Graal et, je cite, jusqu'aux portes secrètes d'un pays silencieux appelé Argentum, l'argent, où dans la lointaine cordillère, il trouvera la pierre ancestrale de la sagesse, bâton noir du commandement. Eh bien, il n'a pas fallu davantage pour que des fouilles aient lieu dans les montagnes de plusieurs provinces, des terres des Indiens araucans de Patagonie, jusqu'au nord, où on dit même qu'un certain Ulysse Argentin a découvert une pièce de basalte poli, aujourd'hui gardée en lieu sûr par une société secrète argentine, la Fondation Delfos. Comme quoi, on peut toujours rêver. Le premier mouvement de la sonate pour piano d'Athos Palma, interprété par Dora Castro. Athos Palma était né en 1891 et c'est curieusement sa passion pour la philosophie et pour la médecine qu'il a décidé un jour à devenir musicien. Il fera même partie plus tard de la direction du Théâtre Colonne. Aujourd'hui, un jardin d'enfants porte son nom à Buenos Aires. Il en serait sûrement très heureux car il était surtout un remarquable professeur. Un peu comme son aîné, Floro Ugarte, qui avait étudié comme lui à Paris. Ugarte était rentré en Argentine en 1913 et 7 ans plus tard, son opéra féerique en un acte, Saïka, était créé au Théâtre Colonne. Dans ce conte de fées bien traditionnel, des monstres et une sorcière poursuivent 2 enfants dans une forêt enchantée jusqu'à ce qu'ils soient sauvés par la bonne fée. Floro Ugarte a surtout écrit de belles mélodies, comme ce jour de fête qu'a enregistré la soprano argentine Ina Spani. Les cloches sonnent à toute volée. Les jeunes filles vont à l'église. Alors que tous les jeunes gens les regardent, un jeune homme soupire. Elles ont des yeux de velours, mais des yeux qui blessent et font souffrir. Et les cloches de sonner de plus belle. Depuis son retour d'Europe, le jeune compositeur Carlos López Buchardo fait de longs séjours dans l'estancia familiale de La Pampa. Il termine en 1920 la composition de ses scènes de la campagne argentine, Las Escenas Campestres. Dans l'estancia de mon père, raconte-t-il, au milieu des ouvriers agricoles, les peones qui se mettaient en cercle autour du brasero, j'ai appris beaucoup de secrets de l'âme des gauchos. Il jouait de la musique et moi aussi, ce qui fait qu'on se comprenait d'une manière très émotionnelle et cela nous rapprochait. J'ai pu collecter ainsi des musiques et des poèmes lyriques pour mes œuvres futures. Las Escenas Campestres sont créées en 1922. En les écoutant, on voit ou on imagine les grands espaces et les somptueux paysages qu'on découvre émerveillés quand on quitte Buenos Aires pour partir à la découverte du pays. Thank you. El Arroyo, la rivière des scènes champêtres de Carlos López Buchardo, Gabriel Castagna à la tête de l'orchestre symphonique d'Entre Ríos.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
En 1920, un collègue de López Buchardo, le compositeur Juan José Castro, part à son tour à Paris, il a 25 ans, pour étudier à la Scola Cantorum avec Vincent Dindy jusqu'en 1925. Cette même année, deux bandoneonistes argentins, Manuel Pizarro et le grand Genaro Esposito, débarquent du cargo La Garonne à Marseille. Ils sont sous contrat pour jouer au cabaret Tabarin de la ville. Un engagement, hélas, de troisième ordre, ce qui les conduit à partir à Paris en 1921. Et leur orchestre, Genaro Pizarro, est engagé au Cabaret Fontaine et au Pavillon Dauphine. Esposito reste seul en 1922. Extraordinaire bandoneoniste, il joue dans toute l'Europe. Deux ans plus tard, on le retrouve à Paris à la tête d'un des meilleurs orchestres de tango de la capitale. Il est enregistré ici en 1924 avec le chanteur Juan Urquiri dans El Rey del Cabaret, le roi du cabaret. Genaro Esposito est mort à Paris en pleine guerre en 1944.
Bacán y arrogante, bien peinado al codito mina, por el cual se trenzaba la mina, castigando la plaza de amor. Le llamaban rey de la milonga, y mujer que pasó por su lazo, en su brazo de niña mi mazo, sin esfuerzo. Rey del cabaret, rey sin corazón, las mujeres se perdieron con su torre de adoración, rey del cabaret, y mi sin amor, y por su alma por su tiempo, una sombra.
Un petit détour par la Belgique à présent, où un jeune homme de 21 ans, le futur écrivain Henri Michaud, décide de partir à l'aventure. Il arrive pour la première fois dans le Rio de la Plata en 1920, comme matelot, écrit-il, dans un 10 000 tonnes d'une belle allure, le Victorieux, qui avait levé l'ancre à Amsterdam. Un an plus tard, il entre dans une école d'officiers de réserve avant d'être définitivement réformé. Il vit alors à Paris, où il découvre la poésie de Lautréamont, l'Uruguayen, et c'est ce qu'il pousse à écrire. En 1923, il y a amitié avec le poète Jules Supervielle, c'est lui qui lui fera connaître par la suite le Rio de la Plata et particulièrement l'Uruguay. Mais son grand voyage, dira-t-il, aura été avant tout de partir à sa propre découverte. Peindre, composer, écrire, me parcourir, là est l'aventure d'être en vie.
Thank you.
le pianiste argentin Valentín Zurif interprétait un impromptu de Luis Sammartino, de la même génération que Carlos López Buchardo. En 1920, c'est le retour de la soprano française Nino Valin dans le Rio de la Plata. Cette année-là, elle ne chante pas d'opéra, mais elle donne des récitals. Et c'est elle qui crée, à Montevideo, le 8 septembre, le cycle complet de Dichterlieb, les amours du poète de Schumann et les Wesendonklieder de Wagner, ainsi que plusieurs mélodies françaises. C'est le pianiste Édouard Rissler qui venait de jouer en duo avec Arthur Rubinstein qui l'accompagne ce soir-là sur la scène du Théâtre Solis. Puis le 2 octobre, elle propose au plus parisien des pianistes espagnols, Ricardo Vignes, grand ami de Maurice Ravel, de partager un programme d'œuvres russes et espagnoles où lui aussi jouera en solo. Nino Valin chantait alors les leaders en français. Elle interprète ici, avec le pianiste Godefroy Andolfi, le 2e lead du recueil de Schumann, Frauenliebe und Leben, l'amour et la vie d'une femme, Er, der herrlichste von allen, noble esprit, noble pensée. Après la rencontre avec l'être aimé, la jeune femme exprime l'amour qu'elle ressent pour lui et elle chante sa noblesse d'âme. En 1920, Nino Valin réside plus longtemps en Uruguay car elle donne des cours de chant et elle va même créer une véritable école dans le pays. Elle formera ainsi de nombreux chanteurs uruguayens dans le domaine de l'opéra mais aussi dans l'interprétation de leaders et de mélodies françaises avec cette diction qui la caractérisait, comme ici dans la chanson triste de Duparc.
«
La chanson triste de Duparc, Ninon Valin soprano, l'orchestre dirigé par Gustave Cloez. En 1920, Ninon Valin s'est surtout établi en Uruguay, qui devient un peu son deuxième pays. Dans le printemps austral, cette année-là, l'Espagne est à nouveau en scène. Le guitariste Andrés Segovia a rempli les théâtres de Buenos Aires et de Montevideo. À l'âge de 27 ans, il est déjà un virtuose reconnu. Quant à notre Célia Gámez, encore toute jeunette, elle est sur la scène du théâtre Maipo de la capitale argentine. Elle danse et chante aux côtés de la future diva du tango, Tita Merello. Elle se prépare à suivre bientôt ses parents en Espagne. Enfin, le 9 août 1920, la compagnie de celle que tous les Espagnols du Rio de la Plata attendaient, la chanteuse Raquel Meyer, se produit au Théâtre Empire de Buenos Aires. C'est tout un événement et on s'arrache les places. Du 16 au 31 octobre, c'est le même phénomène au Théâtre Solis de Montevideo. Raquel Meyer a même mis à son répertoire un ou deux tangos. D'ailleurs, son grand succès à travers le monde, La Violetera, la vendeuse de violettes, est un tango habanera. Elle venait de le chanter le 29 août 1919 et le 2 janvier 1920, sur la scène de l'Olympia à Paris, avec un tel succès qu'elle avait décidé de résider dans la capitale française. C'est donc auréolée de ses succès parisiens qu'elle arrive triomphante au Rio de la Plata.
En Madrid aparece la violetera, que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo este señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el hogar. Lo que se dice un tipo de madrileña, neta y capita, que si entorna los ojos te cause herida, te cause herida. Señorito, que no vale más que un río.
L'Espagne, encore et toujours l'Espagne. En effet, dans ce même théâtre empire de Buenos Aires, ce sont les débuts d'une belle héritière de Antonia Mercé, la Argentina, Encarnación López, qui était née elle aussi en Argentine en 1898. Elle reviendra plus tard en vedette absolue. Par comparaison avec son aînée, on l'appelait la Argentinita, la petite Argentine. Elle tourne alors avec d'autres artistes dans les Amériques. En 1921, le film inspiré du roman espagnol de Blasco Ibáñez, Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, sort à New York et fait des recettes inespérées. L'acteur principal n'est autre que Rudolph Valentino. L'action se passe dans l'estancia argentine de Madariaga, riche propriétaire terrien qui parmi ses petits-enfants a un préféré, Julio. Le beau Julio aime fréquenter surtout les bars des faubourgs de Buenos Aires. C'est là que se déroule la fameuse scène du tango, un tango très fantaisiste, dansé par Rudolph Valentino. Il s'agissait d'un film muet. Alors, dans les salles de cinéma, les pianistes ont imaginé et joué toutes sortes de musiques, dont des œuvres de Louis Moreau Gottschalk ou des tangos qu'ils improvisaient. Gros succès dans le Rio de la Plata et évidemment aux États-Unis. Le compositeur américain Virgil Thomson avait sûrement vu ce film. Il rentrait de Paris, où il avait entendu des tangos au cabaret du Bœuf sur le Toit. Il est alors sans doute l'un des premiers, sinon le premier, à avoir imaginé aux États-Unis un tango sentimental, tout à fait dans le sentiment argentin. Il en avait la sensualité et surtout la mélancolie. C'était en 1923, il avait 27 ans.
Thank you.
C'est avec ce tango sentimental de Virgil Thompson, interprété par Craig Rutenberg, un grand ami du compositeur, que se termine notre voyage d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour la prochaine équipée de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Éric Boisset, que l'on peut écouter et réécouter en podcast.